Cesara lo tocare in mente. Mais il a de la connaissance du bien et mal, tu ne manqueras pas de vie. Il dit, yo, ma chol khanemeni, car le jour où tu en mangeras, mout ta mout, mourir, tu mourras. Alors, il manque un événement, ça veut dire. Tu mourras, tu le fais, c'est si c'est l'al khaïm d'abord. Alors, aussi l'arbre de la connaissance du bien et mal, de tous les arbres du jardin, c'est un homme. Mais si c'est l'arbre de connaissance du bien et mal d'abord, alors il faut empêcher l'accès à l'arbre de vie, tant qu'on est dans cet état. Enfin, j'ai compris donc le. Alors la réponse à la question est très simple. C'est que lorsqu'on a donné d'abord Shafi Foskin et après Kabbalah, ça c'est l'ordre pour l'élève. Mais l'ordre pour celui qui enseigne, c'est Shafi Foskin, c'est Kabbalah d'abord. Et je dirais d'une façon un peu plus nuancée que ça. Ce qui se rattache à ce qu'on a appris. Pour que l'approche, la connaissance du monde en lui puisse être positive et pas négative, il faut s'y approcher avec les critères de la vie. C'est bon faire. Je lui en fais un peu plus, en réalité lors des conflits, c'est d'abord Chassou-Koski sous la direction de quelqu'un. Ensuite, Kabbalah, et après Chassou-Koski, après la Kabbalah. Chassou-Koski, d'après la Kabbalah, ça n'a plus rien à voir avec Chassou-Koski d'avant. Donc c'est la différence, encore une fois, entre la connaissance de l'élève et la connaissance du maître. Je ne sais pas comment vous expliquez cette différence, mais vous l'expérimentez par vous-même. La connaissance de l'élève, c'est que l'élève étudie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le maître qui dit pour savoir comment dire ce qu'il faut faire. C'est pas exactement la même notion. Je vais changer de. Le maître. Oui, mais le maître. Kabbalah al-Mekubal. Ça, je vais quand même vous dire, c'est important, rappelez-vous. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a expliqué énormément de choses. C'est qu'un maître, c'est pas quelqu'un qui a déjà construit. C'est quelqu'un qui a eu un maître. C'est obligé. Alors, bien sûr, c'est pas grave s'il a des élèves. C'est très grave s'il si n'avait pas eu de maître. Bon, on revient donc à un problème. Ça, je referme donc cette parenthèse du serpent. Ce que Korach dit ici, c'est vrai, mais la démagogie, c'est qu'il se sert de la formule qui désigne l'idéal à atteindre pour réclamer ce qu'il réclame pour lui dans une situation qui n'est pas encore celle de cet idéal. C'est bien fait. Et la Torah nous a donné à l'avance la projection de définition de ce que doit devenir Israël, Mamlekhet Kohanim et Goy Kadosh, mais cet argument qui consiste à dire. Puisqu'il ne va pas y avoir de hiérarchie, pourquoi installer une hiérarchie? C'est quoi? Que la rédacte de l'antéloshim, ou que Hamashem, de la main ou Madoua? De la main qui te nasse où? Ou Madoua qui te nasse où? Al et à la chaîne. C'est bien dans l'air. Il est arrivé entre temps que la réalité a dévoilé que Israël n'est pas encore au stade, au début de son histoire, du niveau d'identité que la Torah a comme projet pour lui, au niveau de son identité ultime, réussie et idéale. Donc, entre-temps, il y a eu la fin du Vaudor. Il a fallu donc installer une double hiérarchie en Israël, alors qu'Israël aurait dû être la société anarchique des hiérarchies pour les autres peuples. Vous avez compris, donc, le problème, tout ça est renvoyé à la fin. Un de mes rachines qui se trouve dans la Gemara, à propos de Korach, va dans ce sens-là, et les enfants ceci. Korach a eu un rêve, et dans ce rêve, il a vu un de ses descendants, qui est Samuel, Shmuel. Et Shmuel, un verset de Psaume dit à propos de Shmuel, qu'il est équivalent à Moïse et Aaron à la fois. Le verset c'est Moshe et Aaron de Koranav ou Shmuel de Koreshemou. Moïse et Aaron au nom de ses prêtres, les prêtres de Dieu, et Samuel au nom de ceux qui invoquent son nom. Alors si on fait ce que le Midrash fait, la comparaison du poids de chaque partie du verset, il y a d'un côté Moïse et Aaron de Koranav et de l'autre côté Shmuel tout seul de Koreshemou. Alors il a dit ceci. Si mes descendants, c'est Korach qui parle, si mon descendant Samuel est important comme il est à Aaron, à plusieurs secondes, moi-même. Et c'est la même chose. Ça va dans le sens un peu de l'analyse précédente. C'est vrai que Korah aurait pu être l'égal de Moïse et de Aaron, mais pas dans cette génération-là, dans la génération de Samuel. Il est resté Vous avez d'ailleurs des raisons historiques dans la génération de Samuel, qui a fait que Samuel a mis tout seul, a récapitulé le pouvoir, la compétence, l'importance de Moïse et de Aaron ensemble. Et donc le problème. Ça va jusque-là.
Bien.
Bien. Je crois que à partir du moment où une grande personnalité ouvre une faille dans ce respect de consentement qu'une société a pour son chef, dans ce cas Moïse, alors tout est engouffré dans cette faille-là. Je ne sais pas si la réponse suffit, mais je pense que c'est super. Et parce que vous pensez que au Sinaï, l'événement principal, ce n'était pas tellement que Dieu se révèle à Israël, c'était que Moïse soit habilité pour Israël. Vous vous rappelez ça, vous voulez que je revienne un peu sur ce point. Vous pouvez le voir littéralement dans le texte. C'est-à-dire que Moïse se trouve dans la position la plus difficile qui ait jamais existé. Il réussit quand il est complètement transparent à un point tel que tout se passe comme s'il s'est effacé. Puisqu'il est chargé, lui, l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, de faire comprendre au peuple qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il a réussi sa mission d'intermédiaire quand le peuple comprend qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il a la position la plus difficile. C'est une position qui n'est tenable que si un consentement de la part du peuple qui est de l'ordre de la vertu, de générosité absolue. N'importe qui pourrait dire à Moïse, trouve-nous que c'est Dieu qui t'a parlé. Même quand une fois l'événement a eu lieu. C'est une maladie. J'ai compris ça. C'est un peu ce que nous apprenons dans l'ordre de ce qui est la définition de la pédagogie traditionnelle. Et vous entendrez de différentes manières, mais ça revient toujours au même principe. L'éducation a réussi lorsqu'on faisait passer l'éducateur. Et alors, le problème de l'ingratitude, c'est qu'au moment où l'éducation a réussi, on oublie qu'il y avait un éducateur. J'ai compris le problème. Alors ici, c'est un peu anticipé, et Korah utilise démagogiquement ce principe pour mettre en question. Je vais vous dire un peu plus ce que le Midrash dit à ce sujet, avec beaucoup de renforcement. Dans la paracha précédente, la fin, c'est la paracha de Titi. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la paracha de Titi? C'est que le talet doit être sanctifié par un fil bleu, c'est une cachalette, qui fait que le talet, c'est pas seulement un vêtement avec des franges, mais c'est un talit. Et alors, et dans cette même paracha, il y a ce fil d'Amélida. Alors, Korah, démagogiquement, vient devant Moïse, c'est une fausse question. Tu nous as enseigné qu'un talet est cachère si un fil est bleu. Et si tout le talet est bleu, s'il est cachère, Moïse répond non, c'est pas cachère. Alors, argumentation de terre. Si déjà un fil bleu sera en cachère, un talet blanc, à plus forte raison, un talet tout entier bleu, c'est cachère. Moïse répond non. Alors Korah lui dit, tu as mal entendu ta mise de Dieu. Oui, la phrase, on n'est pas d'accord. Dieu t'a parlé, mais c'est pas ça qui t'a dit. C'est pas faux. On va voir après les situations du mal. Deuxième question, la mezuzah. Il faut mettre une mezuzah à la porte de la maison. Bon. Vous attendez les lignes de la mezuzah, pas seulement à la porte de la maison, mais. Et comment il faut la mettre? Pas à l'envers, c'est pas. Faut faire attention de ne pas la mettre de ce côté-là. Pour rentrer dans la porte, il y a une direction où on rentre. C'est souvent envie de mezuzah à l'envers. Vous comprenez ce que je dis? Avec sa fermeture, sa courroie, pas trop bas, bon. Et alors, Korah pose la question, qu'est-ce que c'est dans la mezuzah? Pas de parachute de la Torah. Non, il y en a deux, c'est dans le film, ils sont là. Deux parachutes de la Torah. Mais s'il s'agit d'une chambre pleine de ces secrets-là, qui font la mezuzah, Moïse dit oui. Alors Korah dit non, j'ai pas pu entendre ça. Une chambre pleine de secrets Torah, est-ce qu'on a besoin d'ajouter une mezuzah à la porte? Si les gars de parachute se rencachent dans une chambre, tout le sucre, plein de sucre d'orage, tout sera derrière. Et j'ai ici une explication générale qui me semble la plus fondamentale. C'est la même chose que son argumentation de Magali. Nicolas, il a coulé un peu de chine. Pourquoi t'en as juste un au-dessus?
significa piacere. Quindi scrivi che il rencard qui rencassère le clave. Le clave le cachère en tant que clave. Pourquoi il faut le clave le cachère, rencard super cachère. Vous avez compris ce qu'il dit, c'est le ihoud de Moïse et de Aaron, c'est la deuxième génération, une pour Moïse et l'autre pour Aaron. Et alors, vous savez aussi qu'à quel pour Moïse et pour Aaron. C'est pas lui qui est la Moïse. La Moïse, c'est, eh ben, c'est juste le contraire. C'est-à-dire, la Moïse, c'est pour Moïse, hein, l'un des six traiteurs, ça c'est Moïse, c'est venu pour la terre, ça c'est Bien, vous avez trouvé la réponse. Bien. Alors, vous voyez comment la réalité, ça a prédité l'argumentation. Le clave est anti-cachère, alors que le clave est anti-cachère, n'a pas besoin d'un médiateur entre Dieu et lui. Et alors, la réponse de Marat est très forte, un clave qui n'aurait pas à sa tête quelqu'un qui est le lien avec le Dieu unique, en réalité nierait la révélation du Dieu unique au clave. Et c'est, je reviens au problème de la dignité de Moïse. Vous avez remarqué ça, un certain nombre de cas très particuliers où Moïse parle de son Dieu, en général, et je crois que c'est le cas particulier de la tradition d'Israël parmi toutes les religions. Et Moïse parle aux enfants d'Israël, non pas de son Dieu, mais de leur Dieu. Je vous dis que d'abord il donne l'Israël. Il est le porte-parole, le Dieu pour les enfants d'Israël. Voilà. De nouveau, la démagogie de Coran. Dieu s'adresse aux enfants d'Israël, il n'a pas besoin d'un intermédiaire. Est-ce que c'est clair? Mais précisément, tant que les enfants d'Israël ne sont pas à ce niveau qu'ont prévu les prophètes, essentiellement Jérémie et Isaïe, il arrivera un temps où personne ne dira à l'autre, apprends-moi. Parce que tout le monde verra avec la même évidence de quoi il s'agit. Vous rappelez ces versets-là, tant dans Jérémie que dans Isaïe. En attendant, ce temps-là, il faut que précisément il y ait un Moïse pour que la révélation arrive jusqu'aux enfants d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé au Sinaï. Les Hébreux avaient besoin d'une habilitation de Moïse comme étant celui qui est le porte-parole pour les enfants d'Israël. Et dès que l'événement est lié, immédiatement ils interviennent en disant à Moïse, bon, ça y est, on a compris, entends-toi avec nous, parce que directement on n'est pas capable, mais encore, si on continue à entendre la voix directement, on va mourir. Vous rappelez ces contextes-là. C'est une phrase dont je suis. Ça veut dire, oui, j'ai tendu perpétuellement à au risque d'une faille dans ce consentement qui est une vertu très délicate qu'il faut que le peuple y accueillisse pour qu'il puisse être le porte-parole de ce Dieu. Alors, vous voyez, avec la fête mal en usage, c'est le décorat sur la question du savez que c'est mal en usage. Mais avec la dignité à celui. Voilà, essentiellement, si vous voulez là-dessus, et je lis le Midrash qui va un peu dans ce sens-là. C'est le verset Vaïtahir Alhum Kota, c'est-à-dire le verset. Bon, le verset qui reprend, le début du verset 3, Vaïtahir Alhum Kota. Et Amarvahim, qu'est-ce que Korah a dit en ce 250 avis et pour les groupes autour de lui? Il a dit notre verset, Korah est d'accord, il a mis dessus. Dans cette argumentation, il a pu les séduire dans cette révolte, dans cette rébellion. Il a dit qu'il est parti de ce principe d'une démocratie absolue de l'identité. Voilà, à peu près du tout, ça permet de où va se cacher la démagogie parce que une fois, j'ai parlé de ce problème avec un leader social de la partie sociale israélienne. En fait, en fait, quand avec une naïveté assez puissante, il m'a fait comprendre que qu'est-ce qu'il entend par démocratie, c'est que c'est une démocratie dirigée. Dirigée par Coran, c'est une démocratie dirigée. C'est pas n'importe qui qu'on va mettre à la tête. Amar Lahem Kolaïdov, il a dit, voilà notre slogan. Toute l'assemblée est sainte. Par conséquent, révolte absolue contre nous étions de nous, pour lui-même et pour Aaron, qui va à l'encontre de ce que lui-même était chargé par Dieu de dire à Israël. Je pense que c'est la peine de revenir un peu, en arrière. Or, pour un Moïse, les fouilles à l'issue de finale, et tous ont entendu le petit Moïse, à Moïse, à son grand-père. Je cherchais une bonne vie. Et en midi, en ce temps, il est aimé que Dieu se révèle pour habiliter Moïse. Je vous rappelle du verset, c'est un temps que je vous ai dit. Pourquoi l'Algérie? Miad, ni tardé à manger, ni tenait à marcher. Alors, Moïse a été secoué, enfin, ni tardé à été. C'est plus traduit. Oui, plus que ça, très puissant. De tremblement, on dit, à cause de ce conflit. Ni tenait, c'est que Varaya et Adam s'y trouvent en vie. Parce que c'était déjà la quatrième fois qu'il était mis en contestation. L'expression pour les parangras est un peu différente. Ça veut dire quatre fois déjà, Sifron. Qui s'était pourri. Que ça sentait mauvais, vivre là. Machal, le bon mené, et ça ressemble à quoi? Au fils d'un roi, ça c'est Israël, chez Sarah, qui s'est mal conduit à la vie contre son père, ou qui est à la bohavo, et l'ami de son père est intervenu pour lui, par un Stein de Chalot, une fois, deux fois, trois fois. Que ce sera réveillé, lorsque c'est arrivé encore une quatrième fois, une trachille et bohavo. Il est impuissant pour intervenir pour lui, l'ami de son père. Ici, le fils du roi c'est Israël, le père c'est Dieu, et Moïse est l'ami de la famille. Une trachille et bohavo, c'est le même. Ama, il a dit, comme une fois je peux déranger le roi, le fatiguer par mon intervention. Afkan Moshe, de même ici Noé, Hatouba Egel, ils ont fauté au moment de la fête du Rodor, Afkan Moshe et Moïse a prié. D'autre part dans le désert, Vaï a Ankenitanéim, lorsqu'ils ont réclamé de la viande, Vaï Falel Moshe, Moïse a prié. Dans la Galilée, au moment des explorateurs, Vayomer Moshe Hashem, Meshamro Israël, Moïse a plaidé. De Mahlukto, chez le Korah, mais lorsque la querelle de Korah le concernait lui, il est devenu insuffisant pour prier pour eux. Kamo Khalia Fiyah Tamakum, combien de fois je peux déranger Dieu, le Tichar, c'est pourquoi il est dit, et vous allez prendre le verset 4, le verset suivant. Vaishma Moshe, Vaipol Alpanav, et nous il entendit cette querelle démagogique, Vaipol Alpanav, et il tomba face contre terre. Ça veut dire impuissant à intervenir. Je vais peut-être ajouter une explication du Midrash, mais tout seul du Midrash, parce que cette fois ça le concernait personnellement, il ne pouvait pas plaider. Ensuite, il y avait la suite du texte, il demande ce qu'on appelait le jugement de Dieu, que Dieu intervienne lui-même pour que l'Assemblée voit qui a gagné. Il ne peut pas lui plaider pour cela parce que ce serait un plaidoyer pour lui-même. C'est un passage extrêmement important et qui nous donne une grande leçon. On peut la comprendre au niveau de la morale individuelle, c'est très important, la mauvaise foi. Mais au niveau de la vie de la société et au niveau des événements historiques, c'est très important de comprendre ce que j'ai fait tout à l'heure, cette démagogie qui cache avec des arguments vrais, en se référant à des valeurs vraies, des intérêts personnels, individuels, qui sont des intérêts négatifs. Bien. Simplement, on va prendre un peu dans la suite, et après je passerai à un deuxième sujet qui me paraît important pour renforcer ce que nous venons d'apprendre. C'est un peu plus loin, je vais trouver le verset. Le peuple a vu que c'est Moïse qui avait raison, puisque Korah, toute son assemblée, en s'était englouti vivant dans la terre, dans un tremblement de terre, vous rappelez cela? Alors le peuple dit, mais vous retrouvez le verset par vous-même, et moi j'ai l'ambition de tout ça, je n'ai pas eu le temps de préparer la référence, dit, nous allons tous mourir. C'est-à-dire, ils accusent Moïse,
qui nous dit...
Non, 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 non
Et non, c'est au moment de la Magessa de Korach.
Kulanu Matnu Kulanu, c'est comme ça que c'est.
Et alors, semble-t-il, Zapil Moïse d'être la cause de la propre mort, si je veux dire. C'est un peu de ça dont je voulais parler. Ils sentent qu'il y ait de la mauvaise foi. D'une certaine manière, ils voient eux-mêmes que Dieu est intervenu pour le jugement de Dieu, comme j'ai dit, et que Korach, son assemblée, a été frappée, et que c'est Moïse et Aaron qui ont été habilités. Donc, c'est clair. Alors, pourquoi cette réaction de Moïse, contre Moïse, dit tu es le responsable de notre mort? La réponse est extrêmement importante, et très simple d'ailleurs, mais c'est extrêmement important. Ça veut dire que s'il arrive une compétition qui réclame le jugement de Dieu entre Moïse et quiconque d'Israël est disqualifié, ça veut dire que Moïse, par sa seule valeur, condamne les autres. Est-ce que c'est clair? Et c'est une des raisons, aussi je reviens donc sur votre question, c'est une des raisons de cette jalousie et incontestation du peuple contre Moïse, parce que le seul fait que Moïse et Moïse déclenchent, c'est clair, c'est une raison. Je crois qu'en sociologie, le phénomène de l'antisémitisme lui-même pourrait être compris un peu mieux de cette manière. C'est-à-dire, j'étais souvent frappé par cette formule de définition de l'antisémitisme, la haine du juif uniquement parce qu'il est juif. Alors, on peut chercher ce qu'il y a là-derrière. C'est-à-dire, le fait qu'Israël soit Israël, ça suffit pour déclencher la haine contre lui. Parce que, dès que la confrontation du jugement apparaît, il y a disqualification à l'avance. Une espèce de frustration a priori. Est-ce que c'est clair? C'est un petit peu délicat, mais enfin, non, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il y a donc comme motivation secrète? C'est que celui qui est de plus valeur, de valeur plus, de plus grande valeur, je ne sais pas comment dire, par le seul fait de son existence, condamne par disqualification l'autre. Alors la réaction, c'est il ne faut pas qu'il y ait cette différence. Parce qu'on serait condamné. Je vais donner un exemple dans l'histoire des patriarches. La paracha de Vaera. Tout ce qui est en train dans les textes précédents, le jugement et la condamnation de Sodome et Gomorrhe, la séparation d'Ismaël et Isaac, etc. Tout cela, finalement, dès que Abraham s'est circoncis, s'accélère dans la vie. On voit un accomplissement accéléré d'une espèce de jugement, de comparaison qui disqualifie qui n'est pas Abraham. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est-à-dire, tant qu'Abraham est encore à l'intérieur de l'anonymat, non encore mis à l'évidence par le jugement, de la différence de la personnalité d'Abraham et du reste, alors il y a un sursis sur les autres. Dès qu'Abraham s'élève en niveau de valeur, ce sursis pour les autres s'arrête. Encore une fois, tant qu'Abraham n'est pas dévoilé comme Abraham, eh bien, le reste de la civilisation humaine est à l'abri d'un sursis. Mais dès qu'Abraham est ce qu'il doit être, Sodome et Gomorrhe est condamné. Pourquoi Dieu a attendu tellement? Encore une fois, ça veut dire que tant qu'Abraham n'était pas tellement de grande valeur, ça protégeait Sodome et Gomorrhe. Donc, Sodome et Gomorrhe pourraient reprocher à Abraham d'être condamné à cause de lui. C'est peut-être une des raisons. Et ça, le Midrash ne le dit pas, hein. C'est moi qui l'ajoute, ça fait un peu trop culture occidentale. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles Abraham se croit obligé de plaider pour eux. Je ne crois pas, hein. Je dis ça en passant. C'est quoi? C'est trop bon. Bon, alors voilà ce que j'ai expliqué pour le premier thème. Alors, on va aborder un deuxième thème qui est dans la passage de Pinchas et qui va compléter ce que nous avons vu maintenant. D'accord, tout de suite. Voilà, dans la passage de Pinchas, vous prendrez le chapitre 26 de Vénilba. Vous avez le dernier dénombrement que nous avons dans le livre de la Torah. Pour le chapitre 26, quel? Oui, ça va. Chapitre 26. J'ai choisi ces marques. Voilà. Alors, il me semble que nous avons étudié ça l'année dernière, mais je crois que ça vaut la peine de le rappeler. Voilà, nous avons le dernier dénombrement que nous donne la Torah. Vous rappelez que cette année, on a parlé beaucoup des dénombrements. Et là, c'était pour dénombrer les familles d'Israël pour le partage de la terre d'Israël au moment d'entrer en Eretz Israël. C'est clair ? C'est une paracha plus importante. Et là, la Torah récapitule le dénombrement en citant le nom des principales familles d'Israël. Nous allons, et là, précisément parce que ce dénombrement est en vue du partage de la terre, les 12 tribus sont dénombrées à part et la tribu de Lévi, à part. Vous allez prendre au verset. Au verset 24 du chapitre 26. Vous avez un très long rachis. Ah non, c'est pas ça, je me trompe. Au verset 36. Au verset 36 du chapitre 26. Vous êtes né tout à l'heure, dans la famille de Benjamin, dans la tribu de Benjamin. C'est ça de Frey. Bon, alors, premier rachis sur Vébné Chutala. À la fin de ce rachis, si quelqu'un me donne un livre, je montre exactement où c'est, dans le recueil. Oui, alors, tournez la page. Et vous prenez la fin de la première ligne à la page 128, dans Rachi. C'est bien venu. Voilà. Alors, Rachi va récapituler le dénombrement qui est fait ici, et il dit ceci. Que va Rachel compte, et Kinsaï, tu trouveras des parachas dans cette paracha, Hamishim, Veshéva, Mishpachot, 57 familles dans les 12 tribus, où nous donnons les 10 Shmona, et 8 familles chez, dans la tribu de Lévi. 57 et 8, ça fait 65. Avec Shishim le Khamesh, ça fait 65, nous dira Shim. Chez Nehema, d'après un verset, je trouve dans le chapitre 7 de Dvarim, qui Asem Hamat Nicolas Amin. Dans ce contexte, dans le livre de Dvarim, Dieu dit à Israël, c'est pas parce que vous êtes un peuple fort et nombreux que je vous ai choisi, puisque vous êtes les plus petits des peuples. Qui Asem Hamat Nicolas Amin. C'est pas la peine que j'écris, qui Asem, car vous êtes Hamat, le petit, en hébreu, ça veut dire le plus petit, Nicolas Amin de tous les peuples. Mais c'est parce que vous êtes les descendants des patriarches. Je vous verrai dans ce contexte. Qui Asem Hamat Nicolas Amin, et Rachid dit, voilà ce que voulait dire ce verset, on va le dire comme ça. Qui Asem Hemeat Nicolas Amin, car vous êtes 5 de moins que tous les peuples. Vous voyez ? J'ai compris la lecture du Midrash. Parce que le nombre des peuples, c'est 70, et vous êtes que 65. Donc, ne croyez pas que c'est par votre mérite que vous êtes Israël, Israël indexé aux 70 nations, parce qu'il vous manque 5 dimensions. Vous vous rappelez qu'à la descente en Égypte, il y avait les 70 noms. À la sortie d'Égypte, en fin de compte, après toutes les épreuves de dernier dénombrement, il s'avère qu'il n'en reste que 65. C'est-à-dire, le résultat de la mise à l'épreuve, c'est une faille dans l'identité d'Israël. Regardez comment travaille Rachid. Rami, il va dire depuis la Suisse. Chez Enchiri, vous êtes 5 de moins que les 70 nations, que les nations qui sont fondées. Il ajoute, Avze et Bantis, là aussi je l'ai compris, mais le Sodo chez le Rabbi Moshe Adarshan, de l'enseignement de Rabbi Moshe Adarshan. Rabbi Moshe Adarshan, c'était un Narboni. Il était Rabbi Moshe Adarshan, ni Narboni. Tous les juifs qui s'appellent Narboni sont de cette famille-là. J'ai entendu parler des Narboni. C'est un grand Darshan. En particulier, il a écrit les Midrashim sur le Moshe Ben Yosef, qui sont assez extraordinaires, qui étaient restés en manuscrit dans les monastères de la région, et que je ne sais plus quel ordre chrétien a édité, avec un commentaire chrétien, bien entendu. Enfin, grâce à cette édition, on a eu ces textes-là, et 이제 그래서 하산이 가까운데 나 뭐 리스가 좀 있지. 알아 그만 거기 뭐 생각선 있지. 그 à la suite de ce démembrement, et il y a aussi cette intention dans ce démembrement, est-ce qu'il y a suffisamment de visages en Israël, c'est le nom des familles à travers les tribus, pour que de cette unité d'Israël, il y ait suffisamment de liens avec la multiplicité des 70 nations pour Israël soit Israël. Il ne s'avère que pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la seule fois dans un démembrement, dans ce chapitre 26, où la Torah raconte quels sont les noms qui ont disparu. Alors je vais vous les donner. D'après les références, la première fois vous l'avez au verset 9 du chapitre 26. Je vais suivre un peu si vous notez les références, vous répondez aussi. C'est dans la descendance de la tribu de Reuben, verset 9. Où venaient Eliab et les descendants d'Eliab, Nemuel et Datan et Abiram. Vous, Datan et Abiram, ceux Datan et Abiram, Kéria et Aïda, les nobles de l'assemblée, vous rappelez, comme on en a parlé, au début de la Parashat Korach, Asher, Itsu, Al-Moshe, et Al-Aaron, et Adat Korach, qui ont excité contre Moïse et Aaron dans l'affaire de l'assemblée de Korach, de Asotam al-Hashem, lorsqu'ils se sont révoltés contre Dieu en Rémi. Batif Tahar et Sipiha, verset 10, et la terre a ouvert sa bouche, Batif Yahotam, et elle les a avalés, de Korach, ainsi que Korah, de Motaïda, dans la mort de cette assemblée de rebelles, je vous rappelle ça, de révoltés, Bahol Aesh, lorsque le feu a dévoré, et Hamishim Mumataïmish, les 250 notables, Rayjou Lenet, ils ont été un. C'est à la fois, c'est pas, ici, ce n'est pas miracle, c'est étendard. C'est un drapeau, étendard, un témoignage. Où venait Korah, le Métou, mais les fils de Korah ne sont pas morts. Après, je reviendrai sur ce petit verset, où venait Korah, le Métou. Non, et c'est pas qu'ils sont pas morts, c'est Shmuel Aîné. C'est-à-dire que c'est la première fois dans un dénombrement que l'énumération s'interrompt pour nous raconter quelque chose. Alors on nous raconte que ce qui s'est passé pour expliquer que ces deux noms de Datan et Abiram ont disparu, mais en même temps, on parle de la disparition du nom de Korah. Rappelez-vous donc de cela, trois noms déjà que nous avons. Datan, Abiram et Korah. Ensuite, après je reviendrai là. Ensuite, vous prenez au verset la Médhima, verset 33. Nous avons là un quatrième nom qui va disparaître. Il s'agit de Tselophrad. D'accord, mais que j'ai dit, on a parlé il n'y a pas longtemps dans le texte. Tselophrad, sa faute, c'est d'avoir violé le Shabbat. Je récapitule, ça mettez en tableau si vous voulez. Datan et Abiram, c'est la contestation, la faute des princes, la faute du pouvoir civil. Korach, c'est la contestation contre Moïse, c'est la faute du Talmid Chacham. La Gemara nous dit, personne n'a le droit de parler de Korach avant de dire qu'il était un grand Talmid Chacham. Il était le plus grand d'Israël juste après Moïse. Le seul qui pouvait contester Moïse, c'était lui. C'est pourquoi c'est une grave faute. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été une petite faute. Vous avez compris pourquoi? Mais comme c'était le seul qui pouvait, c'était le seul qui ne devait pas. Vous avez compris la démagogie, comment ça s'appelle? Et ensuite, nous avons, ça fait déjà trois, nous avons Tselophrad, ça fait quatre, qui est la faute du simple juif, si j'ose dire, qui viole le Shabbat. Vous vous rappelez du récit. Et ensuite, nous avons dans le démembrement de la tribu de Lévi, qui se trouve au chapitre 27, au verset 61 du chapitre 27. Non, c'est quand, mais toujours au chapitre 26, excusez-moi. Toujours au chapitre 26, verset 61. Ça marche. Vayamot, Vayamot, Nadav Abihu, les deux fils de Aaron, Béakriva, Mezuara, les fils Hachem, et là encore, nous en a récit, lorsqu'ils ont apporté un feu étranger sur l'autel, ça c'est la faute des prêtres. Alors, on va faire le bilan. D'abord, si vous avez d'abord l'ordre, l'ordre du plan. Okay. Est-ce que vous avez dans l'ordre? Ça veut dire la faute des la tribu de Rosen, la faute des rois, du pouvoir civil. Tout ça, c'est des fautes de contestation, rébellion. Et on nous a dit tout de suite Korach, contestation entre Moïse. Ensuite, nous avons la faute du simple Ben Israël, et puis la faute des prêtres. Vous voyez, ça sent tout six noms qui vont disparaître. C'est pas juste là. On revient un peu en arrière. J'ai entendu, j'ai pas oublié. On revient un peu en arrière, ça fait six. Vous avez Dathan, Abiram, Korach, Slophad, Nadab et Aviv. Comme ça vous fait 5. Ça fait 6. Et Dathan et Abiram. Dathan et Abiram d'abord. Nadab et Aviv, c'est les prêtres. D'accord. Après, je reviendrai sur mes Korach. Je n'ai pas fini d'abord ce premier exposé. Alors, revenez au verset 33 du chapitre 26. Alors là, on est dans la tribu de Ménaché, c'est-à-dire les descendants de Joseph, où Slophad, même ses frères, n'aura eu l'Obanim. Et Slophad n'avait pas eu de fils. Shim Banot, mais que des filles. Des Shim Banot, du nom Slophad, et le nom des filles de Slophad, c'est Mahla, Noah, Hogla, Milka, Vetirsa. On apprend du Midrash, elles étaient toutes des grands habitants. Sadakot, Sadekot. Alors, prenez maintenant dans la suite. Le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 27. On est au chapitre 27. Vous avez tout ça en tête? Bon. Vatikravna, de nom de Tselophrad, et les filles de Tselophrad, Ben Hefer, fils de Hefer, Ben Gilad, fils de Gilad, Ben Machir, fils de Machir, Ben Menaché, fils de Menaché, fils de Joseph, s'approchèrent. Et les Mishnahot de Menaché ben Yosef, et les Rishonot de Nadab, et voici leur nom, et on les reprend, Mahla, Noah, Hogla, Milka et Tirsa. S'approchèrent de Moïse, Vata'amodna les fils de Moïse, et c'est les fils de Moïse, etc. C'est debout, dans l'attitude du plaideur devant le tribunal, Vata'amodna. Et Hazar à Cohen, et devant Hazar le grand prêtre. Félicien Messine, et devant les princes, devant la réserve, toute l'assemblée, c'est à quoi moi et les morts, devant le Mishkan, devant la tente d'assignation. Pour dire, tu veux bien ce verset. Abimou met Bamidba. Notre père est mort dans le désert. Elle parle de Tselophrad. Vehu Loraya Betocha Aïda, et lui ne se trouvait pas dans l'assemblée, à nos Abim Alachim qui se sont révoltés contre Dieu, de Hadat Korach, dans l'assemblée de Korach. Qui Bechéto, mais il est mort par son péché, par sa faute. Koubamim Raïlo, et il n'avait pas de fils. Pourquoi son héritage passait-il, etc. Et on apprend dans cette paracha que lorsque quelqu'un est mort sans fils, Bamim mal, l'héritage passe au fils. En réalité, les filles héritent, mais c'est pour des problèmes de différenciation de tribus que seules les filles héritent, mais qu'en principe les filles héritent. La preuve, c'est quand le fils, il n'y a pas de fils, les filles héritent. Voilà. Alors je reprends maintenant tout cela. L'argumentation des filles de Tselophrad est importante pour la suite. Elles nous disent que, elles disent dans le texte que Tselophrad n'était pas dans Hadat Korach. Et c'est l'argument pour lequel elles demandent que le nom de Tselophrad ne disparaisse pas. Bon, alors nous avions six noms qui avaient disparu. Avec quel argument? Parce qu'il n'était pas avec Korach. Korach, lui, ça doit disparaître. Mais ça veut dire. Les cinq filles de Tselophrad ont restitué cinq noms dans les six qui manquaient. Ça veut dire qu'elles ont statut de famille, de chef de famille en Israël. Cinq noms. Donc il en manque qu'un, c'est Korach. Alors vous voyez, il fallait être 71. Et puis, si il y avait 65 ici, ça va faire 71. Alors il n'y a que 65 et 5. Ça ne fait que 70. Donc il en manque un. pour qu'il y ait 60 euros.
Vous avez compris un peu les chiffres que vous avez dit.
Ça veut dire qu'il y a toujours une faille. Il y a un tsad nukba, c'est le hé à haron du shem, pour ceux qui savent de quoi je parle, il y a un tsad nukba dans l'identité d'Israël à cause de ce qui s'est passé dans ces épreuves. Et il en résulte que le mot de Adonai, qui définit la souveraineté de Dieu sur l'assemblée d'Israël, sur la souveraineté d'un tout, n'est pas écrit à la galop. Il est écrit sans vav. S'il était écrit avec le vav, la valeur numérique de ce mot serait 71. Sans le vav, c'est 65. Ça veut dire, et grâce au fil de Sélophrate, c'est quand même 70. J'ai l'impression que je ne peux pas dire plus pour que vous compreniez le texte. Ça veut dire que, à la fin de toutes les épreuves de la génération du désert, Israël aurait failli être disqualifié à travers les épreuves des fautes fondamentales de son identité. La faute du pouvoir civil, la faute du pouvoir religieux, la faute des saintes juifs et la faute de la contestation entre Moïse, la faute du Tamir Haram. Toutes les autres fautes sont récupérées par les cinq rites de Sélophrate, qui complètent 5 des 6 qui manquent, c'est clair? Et ça, c'est le mérite c'est le mérite des femmes d'Israël de faire que même s'il y a une faute, c'est comme s'il n'y a pas de faute. Bon, j'ai compris ça aussi. Seulement, il y a un problème qui n'est pas encore résolu, c'est celui de Korah. Ça va jusque-là? C'est-à-dire que la contestation la plus grave contre la Torah, c'est celle du Talmud Chacham de Magog. Je ne vais pas vous dire ça autrement. Vous comprenez toutes les implications qu'il peut y avoir derrière tout cela. Pour terminer, alors, ce petit verset, Ubne Korah l'omet. Le pshat, ça veut dire que les fils de Korah n'ont pas participé à la faute de Korah. Alors la Torah nous indique, ces enfants ne sont pas morts. Et il va y avoir un tikkun qui sera fait par les Ubne Korah. De la faute de Korah. On utilise dans le folklore hébraïque, de la littérature hébraïque, cette expression avec un autre sens. Quand on dit « Ubne Korah lo metu », ça veut dire « la marloquette est toujours en Israël ». Non, on lui fait dire le contraire du verset, « Ubne Korah lo metu ». C'est une fois que je vous donner un ridouche là-dessus, c'est qu'on apprend par beaucoup de sources du Midrash que la marloquette est apparue dans le monde le deuxième jour du commencement. C'est le terme même du Midrash. Vous savez que dans le récit du deuxième jour du commencement, il n'y a pas, et Dieu dit que c'était bien. Parce qu'il y a eu séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vous vous rappelez? La marloquette. Il y a un long maharal là-dessus dans le Haïm qui dit que c'est une marloquette, les Shem Shamaïm. Même la marloquette, les Shem Shamaïm, se noue à la marloquette. Alors c'est pas écrit plutôt. C'est pas écrit, et Dieu dit que c'était bien. C'est-à-dire, même quand c'est une marloquette, les Shem Shamaïm, Dieu n'aime pas ça. Alors c'était une marloquette, les Shem Shamaïm, pshat. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la différence entre le ciel et la terre, il a fallu que les yeux d'en haut et les yeux d'en bas se séparent. Donc c'est bien les Shem Shamaïm pour qu'il y ait un ciel. Hein? Mais même ça, c'est nous en marloquet. Donc il n'y a pas de soucis. Vous savez que chaque jour de la semaine, à la fin de la tefila, on dit un psaume. Les Lévites disaient chaque jour de la semaine au temple. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'on dit la matière? Les Mekoach, Midio. Ça veut dire que c'est les Mekoach qui sont chargés de faire le tikkun de la marloquette qui a commencé avec le fer, c'est relié aux Mekoach le maître. Qui c'est les Mekoach? C'est les Lévites par excellence. Vous rappelez qu'un jour je vous ai parlé des Lévites, c'est-à-dire ceux qui savent les poètes, vous rappelez de ça? C'est eux qui arrangent la marloquette. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit un peu à ce moment. Bien, je vois qu'on est arrivé. Alors, le sujet n'est pas épuisé, mais l'année est épuisée. Ok. Une minute.
Je vais vous
parler de la réunion sur quelle est la chose. Vous avez dit que j'avais oui, c'est à propos de l'expression de la réunion. Je contredis habituellement un pays. Ou coule le miel, mais littéralement c'est un pays qui distille. La veuve, ça veut dire distiller. Vous connaissez ce mot-là en hébreu, je vais le traduire trop précisément. Un pays qui distille le lait et le miel. Comme Marocain, c'est le commentateur, s'il s'agit du miel des abeilles, ou s'il s'agit du miel du rocher, c'est-à-dire, s'il s'agit du miel des abeilles.